Dans quel monde on vit fête ses 10 ans et si pour célébrer cet anniversaire, vous vous abonnez à notre podcast. Déjà, merci pour ce chouette cadeau.
Je pense que ce qui se joue dans les contre-cultures au sens général est absolument essentiel au bon fonctionnement d'une société malade telle que la nôtre aujourd'hui.
Bonjour à vous, c'est Pascal Claude. Merci de prendre un petit peu de votre temps pour nous écouter. Vie poétique et génération désenchantée, c'est tout de suite avec mes deux invités, Arthur Théboul et Simon Johannin. Bonne écoute.
La première.
Dans quel monde on vit ? Avec Pascal Claude.
Que peut-elle ? Oui, que peut la poésie ? La question lui est régulièrement adressée. Le plus souvent, je trouve, avec une certaine dose d'agressivité. C'est comme si elle avait des comptes à rendre, oui. Comme si sa valeur devait immédiatement être déterminée. Comme si son cours en bourse devait être révélé. Comme si elle devait à tout prix être rattrapée, absorbée par les lois économiques. Main invisible qui surveille, muselle la poésie. Qui aimerait la ridiculiser. Oui, la ridiculiser en démontrant que, certes, elle est jolie, la poésie, mais d'une beauté qui au mieux sert à décorer à l'image de ce bibelot qui prend la poussière dans un coin de votre salon. Élément décoratif qui finit par encombrer. Autrement dit, la jolie poésie, elle ne risquerait pas de changer, de bousculer la société. La poésie qui serait sans pouvoir, sans puissance. Mais alors, pourquoi l'obsession de lui poser sans cesse la question « Que peux-tu, chère poésie ?» N'est-ce pas la démonstration masquée que pour certains, il serait bien sage de s'en méfier ? Que peut la poésie ? L'écrivain Velibor Čolić répond ceci dans son nouveau roman que je lisais ces jours-ci. La poésie ne peut pas arrêter la guerre, mais la guerre non plus ne peut pas arrêter la poésie. C'est très peu, pourtant c'est encourageant, c'est déjà ça. Mais alors autre question, qu'est-ce qui est sauvé quand la poésie reste en vie ? Un espace de lutte contre un formatage du langage ? Un endroit où l'on peut s'abreuver de beauté, se ressourcer, se reposer, découvrir ses vérités ? Le lieu où imaginer de nouvelles possibilités ? Oui, je crois que la poésie, elle peut tout ça. Et toi, t'en dis quoi, dis-moi ?
Dans quel monde on vit ?
Et qu'en disent nos deux poètes invités, je vais leur demander, je vous les présente, Arthur Théboul. Vous êtes né en 1987 à Paris, vous êtes le chanteur et parolier de Feu Chatterton. Ce monde nouveau dont on n'a pas fini de rêver, vous êtes aussi poète Arthur Théboul, poète et déverseur, c'est-à-dire que vous avez écrit l'an dernier des poèmes à près de 250 personnes reçues dans votre cabinet de consultation poétique. Vous nous raconterez cette expérience, expérience à vivre aussi au travers de votre livre qui sort cette semaine et qui est intitulé « L'adresse ». Simon Johannin, vous êtes né, vous, en 1993 dans le Tarn, en France. Vous connaissez Bruxelles puisque vous avez étudié il y a une dizaine d'années à la Cambre et vous écrivez des livres de poésie mais aussi des romans. Ici commence un amour, c'est le dernier né et ce texte, il n'a pas fini de me secouer, nous allons en parler. Mais pour commencer, cette interrogation, que peut la poésie ? Comment la recevez-vous cette question et qu'est-ce que vous y répondez ? Arthur Théboul d'abord.
C'est vrai qu'elle témoigne souvent d'une méfiance a priori qui est plutôt bon signe. Parce que si elle était si anodine qu'on le dit, on la laisserait indifférente. Et là, on sent qu'elle énerve hein, ces valeurs-là de productivité, de rentabilité. On doit savoir d'avance où on va. Et la poésie, justement, elle peut ça. Elle peut arrêter ce cours-là de l'utile, de l'efficace, pour nous détourner un temps du quotidien et de l'usage, de l'usure. Et vous l'avez dit, hein, c'est une manière de renouveler le langage usuel en s'autorisant à jouer avec les mots, en s'autorisant des associations nouvelles pour essayer de dire le réel.
Que peut la poésie, Simon Johannin ?
Je n'ai pas encore la réponse à cette question, je pense. En tout cas, ce qu'elle peut pour moi, quand j'en écris, ce que j'espère pour les autres, c'est de révéler le versant poétique du monde, le versant symbolique, le versant magique des choses. Et donc,
quel est le versant poétique du monde, Simon Johannin ?
C'est celui qu'on ne voit pas, si ce n'est à travers l'expression poétique. Et c'est-à-dire que, pour rejoindre un peu ce que disait Arthur à l'instant, assez loin de considérations matérialistes, d'un coup, on ouvre sur d'autres espaces qui sont plus difficilement cernables et plus intéressantes pour ce qu'il raconte peut-être.
J'aime bien ces mots de Paul Valéry, le poème, cette hésitation prolongée entre le son et le sens. Arthur Théboul et Simon Johannin, vous êtes nos invités cette semaine. Salut Blandine.
Salut.
Blandine Rinkel, vous êtes membre du groupe Catastrophe, écrivaine et autrice de lettres. Vous écrivez à qui cette fois-ci ?
À la rumeur, aux rumeurs.
En toutes lettres, c'est dans une petite demi-heure. Et là, ce sont les selfies sonores de nos invités que nous écoutons. Un son en guise d'autoportrait. Voici d'abord le vôtre, Arthur Théboul.
If I gave you my love, I tell you what I do.
Extrait de la chanson Simply Beautiful d'Al Green. En quoi est-ce que ce titre vous ressemble, Arthur Théboul ?
C'est plutôt un autoportrait désiré, quoi. Une chose que je me souhaite. J'aimerais avoir cette même délicatesse solaire, cette souplesse et nonchalance. On sent que c'est une chanson d'amour à la fois pudique et extrêmement sensuelle. J'aimerais bien lui ressembler, quoi.
Voici maintenant votre selfie sonore, Simon Johanna. C'est le groupe new-yorkais Nation of Language avec le titre Automobile et mon excellent accent anglais. Pourquoi ce titre, Simon Johanna ?
Je vous remercie d'avoir dit le nom du groupe à ma place. Pourquoi ce titre ? Simplement parce que je passe beaucoup de temps sur les routes en ce moment et c'est un groupe que j'écoute beaucoup quand je suis en mouvement. Je pense que c'est juste une énergie quoi, qui me porte et qui m'emmène. Et puis je trouve que c'est des... Ils ont une manière de manier la langue anglaise qui est très intéressante. C'est très simple et très, très évocateur.
Je pensais que vous alliez me répondre « Moi, j'appartiens à la nation du langage ».
Ah non, je n'aurais même pas pensé. Jamais j'oserais dire un truc pareil.
Ce sont donc vos selfies sonores. Et nous enchaînons maintenant avec quelques sons de l'actualité. Malgré la dernière résolution de l'ONU, le feu n'a pas cessé à Gaza. Et de plus en plus, ça ressemble à l'enfer là-bas.
Une maman m'a dit que son fils de 12 ans fait toujours le même rêve. Il rêve qu'il mange un bout de concombre. Voilà à quoi rêvent les enfants au nord de Gaza.
Il a décidément l'art de réécrire l'histoire, même si Vladimir Poutine admet du bout des lèvres la responsabilité d'islamistes radicaux dans l'attentat terroriste du 22 mars près de Moscou. Il ne change pas de cible.
Cette atrocité ne peut être que le maillon d'une série de tentatives menées par ceux qui, depuis 2014, sont en guerre contre notre pays aux mains du régime néo-nazi de Kiev.
Bassirou Diomaye Faye, élu nouveau président au Sénégal.
Un nouveau président ? Parce que ce système ne nous convient pas.
Il nous dit qu'il y a beaucoup de richesses, mais le peuple toujours, il souffre. C'est ça que le peuple a décidé de changer.
Petit, on en rêve. Grand, on en crève. C'est l'un des slogans que nous pouvions lire mardi sur les tracteurs à nouveau de sortie à Bruxelles.
Maintenant, presque deux mois que les agriculteurs manifestent et on n'a toujours rien. Niveau prix, on n'a toujours rien. Rien du tout. Ça devient très fatigant. Très, très fatigant.
Enfin, la slameuse et poétesse Lisette Lombé devient notre nouvelle poétesse nationale.
Pour moi, l'endroit poétique, c'est plutôt comment on se sent exister ensemble à un moment donné. Si quelqu'un prend la parole, tout le monde est touché par les mots. C'est plutôt une émotion partagée et partageable qu'un travail d'orfèvre sur la langue.
Voilà pour ces quelques échos de l'actualité. Nous en venons à votre temps fort de l'actualité. Qu'est-ce qui vous a marqué en particulier ces derniers jours ? Qu'avez-vous décidé d'épingler ? Blandine d'abord.
Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que l'Observatoire international des prisons est menacé. Donc, l'Observatoire international des prisons, dit OIP, qui est unique en France et qui est là pour nous alerter sur les conditions des détenus et qui a perdu 67% de subventions en 10 ans, alors même qu'on a atteint des records historiques de détention, puisqu'il y a 75 000, un peu plus de 75 000 personnes détenues dans les prisons. Et donc, il est menacé et on peut l'aider en faisant un don.
Et même réalité en Belgique. Arthur Théboul.
Ben là, il y a pour la première fois un jeune homme qui a pu jouer à Mario Kart par la pensée seulement. Alors ça a l'air d'être juste anecdotique, mais c'est grâce à un implant installé dans son cerveau. Donc pour quelqu'un d'handicapé, c'est de nouvelles possibilités qui se présentent pour l'avenir. Après, ce qui est particulier, c'est que c'est développé par Neuralink, donc la structure d'Elon Musk. Oui. Donc je trouve que ça dit pas mal de choses. D'abord, il y a ce truc qui a l'air d'être vraiment superficiel, qui parle d'une avancée technologique probablement majeure, mais développée par quelqu'un qui a peut-être des intentions masquées. Donc, le bien, le mal, toujours mêlé, quoi.
Simon Johannin.
Alors moi, c'est l'annonce de l'édition inédite d'un script de Jean Genet, Mademoiselle, qui va paraître le 4 avril. Et j'ai trouvé ça intéressant dans le contexte planétaire actuel, puisque Jean Genet était un grand défenseur de la cause palestinienne, et donc je vois son fantôme avoir à agir comme ça pour nous faire un petit signe.
C'était l'actualité de ces derniers jours. Et tiens, regardez, écoutez, revoilà de la poésie.
La poésie, c'est d'abord des étincelles de ce monde qu'on a du mal à comprendre.
Comprendre ? Mais lorsque la compréhension nous a gagné, autoriser les déconstructions les plus fondamentales.
Le surréalisme a toujours vécu en relation avec ce que nous avons appelé le merveilleux. Le merveilleux est beau, il n'y a même que le merveilleux qui soit beau. Et ce côté de merveilleux dans le rêve nous a toujours retenus et sollicités.
Les poètes Tanella Boni, Aurélien Barraud et à l'instant le merveilleux André Breton, c'était en 1961. J'ai longtemps rêvé l'existence au cœur de nos villes et de nos vies d'un endroit protégé de la clameur du monde, du bruit et de la fureur où l'on pourrait faire halte un instant. Un endroit au coin de la rue, à l'abri du tumulte et des regards, où nous attendrait derrière son bureau un poète. On passerait sa porte pour s'asseoir un moment face à lui, le temps qu'il nous écrive un poème. Nul n'aurait besoin de parler, notre seule présence suffirait. On irait là-bas comme on va chez le fleuriste, le coiffeur ou le cordonnier, entre midi et deux ou après le travail. Dans les grandes et les petites occasions, cet endroit ferait partie de notre quotidien. C'est ce que vous écrivez, Arthur Théboul. Et cet endroit, vous l'avez créé l'an dernier à Paris. Pendant une semaine, vous avez reçu près de 250 patients dans votre cabinet de consultation poétique baptisé Le Déversoir. Le Déversoir qui était le titre de votre premier recueil, une collection de poèmes minutes, comme vous dites, poèmes réalisés en mode écriture automatique. Et donc, pendant une semaine, vous avez été un déverseur, c'est le nom que vous donnez à la fonction que vous avez exercée. Le métier de déverseur est un métier magnifique, écrivez-vous. Qu'est-ce qu'il a de si magnifique à vos yeux, Arthur Théboul ?
Je l'écris après avoir pratiqué. En fait, ce qui était assez singulier et beau, c'est que la plupart du temps, quand on confronte notre idéal au réel, c'est un peu en deçà toujours. Ce qu'on fabrique est toujours un peu en deçà de ce qu'on imagine et on l'accepte. Et cette fois-ci, c'était au-delà de mes espérances. C'est-à-dire que...
Mieux en vrai.
Ouais, c'est ça. J'avais l'intuition et la volonté aussi de mettre au coin de la rue, là, vraiment dans la ville... plutôt que de me plaindre toujours que la poésie ait déserté
nos lieux de vie.
Ouais, de mettre quelque chose à portée de main et de voir si vraiment je me trompais ou si c'était là en chacun qu'on en avait besoin. Et l'effervescence qu'il y avait pendant cette semaine-là, le nombre de visiteurs, les gens venus de partout en France, l'émotion, la fébrilité, c'était quelque chose de très puissant. Aussi parce que le moment même de la rencontre poétique, où en fait personne s'asseyait quelques minutes dans le silence à attendre que le poème s'écrive en face d'elle, qu'ensuite je lisais et lui remettais, c'était un moment assez rare. Et on devrait essayer plus souvent, mais on n'a pas vraiment l'occasion, de passer quelques minutes en présence d'un inconnu dans le silence. Je crois qu'on accède à une part de l'autre assez profonde et étrange, parce que on aime plutôt penser qu'on se connaîtra mieux en parlant, ce qui n'est pas forcément le cas.
Ouais. Qu'est-ce qui circule, à votre avis, Arthur Théboul, entre les êtres lorsqu'ils se taisent ensemble ?
J'ai pas de réponse, j'ai pas une réponse. C'est quelque chose de mystérieux. C'est peut-être être un peu grandiloquent comme ça, mais je crois que c'est une part d'humanité en tout cas. Quelque chose d'insaisissable de notre humanité, de quelque chose de commun, de semblable. Du coup, quelle que soit la teneur du poème écrit, il devient symbolique, un lien palpable d'une rencontre. Et ça me permettait aussi de me protéger d'une certaine manière, sachant que j'écrivais automatiquement dans le flux de conscience, donc peut-être parfois maladroitement, peut-être parfois des choses banales. Savoir que le poème en soi, quelle que soit sa valeur littéraire, était le lien d'une encoche dans le temps qui marquait cet instant de la rencontre, c'était déjà une forme de réussite, bien que j'aime pas trop cette idée, parce que tout concourait dans cet endroit à essayer de se libérer de l'attente, et donc de l'attente de la réussite, de l'attente de l'éblouissement, de l'attente d'être impressionné, etc. Il fallait se laisser aller. C'était assez simple, finalement.
Et qu'est-ce que ça change d'écrire en présence d'autrui, Arthur Théboul ?
Beaucoup de choses, plus que je l'imaginais. Et là, je n'ai pas vraiment d'explication, mais chaque poème prenait vraiment sa source dans l'autre qui était là. C'est difficile.
Donc l'autre était en quelque sorte co-auteur ? Vous iriez jusque-là, Arthur Théboul ?
Il faisait naître le poème. J'aime à penser que, comme s'il y avait des poèmes en attente, là, qui attendaient que les gens viennent les révéler. Et il y en a encore qui attendent, et puis un jour, ils sortiront comme ça de terre. Donc oui, il faisait naître ses poèmes.
Ouais. Révéler l'autre ou vous révéler vous-même, ou les deux ?
Oui, ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas d'artifice, c'est pas un truc de gourou, en fait. L'idée, quand les gens entrent, puisque le poème n'est pas le fruit d'une conversation ou d'un désir de cerner l'autre, ou bien même, pour ma part, aucune volonté de montrer à l'autre que j'aurais compris quelque chose de lui ou que j'aurais percé à jour son intimité. C'est pas le but.
C'est laisser trace d'un moment partagé ?
Oui, et laisser venir aussi. Alors, en effet, quand une personne entre dans un endroit et qu'elle arrive à moi, bah, elle a un visage, elle a des vêtements, elle a une attitude. Évidemment qu'inconsciemment, ça vient jaillir probablement dans le poème, mais le poème, il est à la fois le fruit de cette présence de l'autre et puis de ce qui me traverse à ce moment-là. C'est un lien, c'est une rencontre. Et voilà, ça arrive dans les mots, ensuite.
Vous pratiquez l'écriture automatique et vous précisez qu'elle vous oblige à être présent à la fois à vous-même et aux autres. Est-ce que vous pouvez développer en quelques mots ces vertus de l'écriture automatique, Arthur Théboul?
Oui, c'est en fait quand j'ai commencé à pratiquer de manière un peu accidentelle il y a 7-8 ans, ça m'a fait du bien tout de suite parce que l'écriture, c'est mon ambition, c'est ma nécessité, c'est mon gagne-pain, c'est mon idéal. Donc à chaque fois que je mets à écrire, je suis très très lourd, quoi, très conscient. Et tout de suite, je pense à est-ce que ça va être beau, est-ce que ça va être intelligent, est-ce que ça va surprendre. Il faut une trouvaille, quoi. Et ça, bon, c'est quand même embarrassant parce que le geste agile du pur plaisir, du jeu, de dire le monde, il doit à un moment quand même se libérer de cet amour-propre qui est quand même très très présent. Et plus en plus ça devient une réussite, un métier, plus les gens vous reconnaissent pour ça, ben plus ça devient lourd. Alors j'ai commencé à écrire d'une manière vraiment bête. Je voulais juste noircir la page pour voir quelque chose sur la feuille, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. C'était une pratique, une discipline même, qui petit à petit me libérait de ça. J'acceptais d'écrire des choses vraiment banales, quoi. Et dans la littérature, le banal, on devrait l'inviter un peu plus souvent, je crois.
Pourquoi ?
Parce que je suis convaincu que la littérature peut se saisir du monde entier, de tous les sentiments. Donc, si on n'accepte pas de parler aussi du banal, aussi du prosaïque, aussi des nouvelles technologies, avec des mots qui sont difficiles à manier, etc., c'est nous qui la tuons. On la rend morte. Si on pense qu'elle doit être circonscrite à aux champs de fleurs, de ruines.
Et je pense que Simon Johannin va approuver, parce qu'on le sent dans vos textes, le banal, il prend place.
Oui, enfin, pour moi, il n'y a pas de sujet intéressant, il y a des manières intéressantes de raconter tout ce qu'on voudrait raconter. C'est ça le travail de la littérature.
Arthur Théboul, Blandine Rinkel a choisi l'un de vos poèmes écrits pendant cette semaine, et elle va nous le lire.
Quand nous aurons repris la discussion là où nous l'avions laissée, quelque chose de lourd tournera dans la pièce. Ce sera encombrant, c'est vrai, et tu n'as pas toujours voulu reconnaître cette part de l'édifice à bâtir. Ce sera peut-être un petit peu désagréable aussi. Mais au bout d'un moment, si l'on persiste dans le calme et la retenue, ce bloc minéral très lourd entre nous, cette chose qui trône avec emphase, changera de forme. et nous aurons tout le loisir de la voir se déployer en une majestueuse et légère dentelle filigranée. Je ne dis pas qu'elle ne sera pas de pierre. Tu te souviens du Christ voilé de Naples ? Eh bien, d'un point de vue purement physique, ça ressemblera à ça. Sous l'angle spirituel, pas tout à fait, il y aura encore à dire sur le bloc à présent dentelé. Continuons de le regarder se métamorphoser dans l'espace entre nous. À la fin, et c'est drôle, il se fige en un petit toutou adorable qu'on est à deux doigts de ramener à la maison.
Plusieurs fois, on vous a demandé, Arthur Théboul, si vous aviez eu des pannes d'inspiration. Et apparemment, ça ne serait pas la bonne question à poser, parce qu'il ne s'agit pas d'inspiration, mais de voix qui nous traverse l'esprit. C'est ce que vous écrivez, c'est-à-dire...
Bien, en fait, on a tous un murmure dans la tête, quand même, tout le temps.
Et là, en ce moment, ça cause en vous ?
Si je prenais un stylo, probablement que je saurais ce qu'il y a à l'intérieur. Et surtout, je pense que c'est l'idée de faire. C'est pour ça que je disais ça, en fait, sans y réfléchir. Mais à partir du moment où on fait, quelque chose vient, quoi. Après, on peut le travailler, le sculpter, le transformer. Mais d'abord, il faut faire. Il faut se confronter à la matière. Et c'est juste le plongeon, le commencement, quoi. Un mot, n'importe lequel, en fait. Et quelque chose viendra. Il faut avoir un peu de patience et de confiance. Mais je dis ça, j'ai passé de nombreuses heures devant une feuille à attendre, hein, et ne rien trouver. Mais souvent, une bonne idée... Il y a des fulgurances, mais souvent, une bonne idée est la suite d'une mauvaise, quoi. On commence quelque chose, et c'est parce qu'on n'en attend rien et qu'on n'espère pas tout de suite quelque chose de grand qu'on va se laisser un peu aller. Et puis, tiens, au bout de la troisième phrase, quatrième idée, quelque chose nous accroche, nous attache. Mmh. Donc, il y avait aussi, pour revenir plus précisément à la question de l'inspiration, la cadence, en fait. Écrire 30 à 40 poèmes par jour, je me demandais si au bout du compte, j'entendrais plus rien, justement. Ouais. Ou bien si j'aurais trop de réflexes. Voilà. Est-ce que j'allais avoir tellement d'habitude dans ma pratique que... ce serait malhonnête d'un coup, tout ça. Et en fait, non, parce que c'est une discipline vraiment continue d'acceptation. C'est vrai que quand on est un peu lourd après le déjeuner, peut-être qu'on n'a pas forcément envie d'écrire, mais là, si c'était mon devoir, parce que j'avais des rendez-vous, bah, j'acceptais que le poème soit pénible, peut-être, ou un peu en digestion, ou parfois qu'il me soit désagréable de l'écrire. C'est intéressant aussi.
Écrire autant de poèmes en si peu de jours, est-ce que ça ne banalise pas le geste artistique, au fond, Arthur Théboul ?
Peut-être, mais ce n'est pas important, le geste artistique. Ce qui est important, c'est de partager une chose dans laquelle on croit avec les gens, en espérant que ça se diffuse. C'est un artisanat plus qu'un art, le déverseur, le déversoir, le déversement, je ne sais pas comment on appellera ça, mais... Mm. Mais c'est marrant parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ça, notamment des gens qui travaillent dans l'art contemporain, parce qu'ils se disaient, bah mince alors, si c'est plus limité là, tes poèmes, c'est plus numéroté, ils ont moins de valeur. Ça m'importe pas du tout.
Oui, moi, après le passage de vos patients, vous leur avez adressé un message accompagné de 21 questions. Vous dites que c'est en quelque sorte un questionnaire de satisfaction. Je reprends deux de ces questions que je vais me permettre de vous poser. Croyez-vous qu'un poème puisse changer une vie, Arthur Théboul ?
Je suis obligé de répondre oui, parce que j'ai dédié ma vie à ça. Et plus concrètement, quand je...
Vous pourriez avouer vous être planté aussi.
Bah, ça aurait quand même changé ma vie. J'aurais peut-être mis le dans le mur, mais j'aurais cru en quelque chose qui m'y a amené.
Deuxième question. Croyez-vous que la vie ait besoin d'être changée ?
J'ai bien aimé poser cette question parce que je trouve que c'est une mauvaise question.
Ah.
Et souvent, aux mauvaises questions, les gens ont de bonnes réponses. Parce qu'en fait,
et quelle est votre bonne réponse alors, Arthur Théboul ?
Bah, je vais m'inspirer des réponses des gens.
Ah non,
parce que
la vôtre,
très belle.
S'il vous plaît. Celle que vous révèle votre murmure intérieur.
Bah, en fait, maintenant, je suis habité par la réponse des gens que j'ai trouvée plus puissante.
Et ils bottent en touche.
Il y en a qui disaient, de toute façon... Non, mais en gros, de toute façon, elle change. Ou bien, il faut l'accepter pour ce qu'elle est. C'est très simple. Mais j'ai trouvé ces réponses-là, et maintenant, j'en ai plus d'autres.
Apprenons à ne pas consulter nos appareils électroniques lorsque nous sommes dans le doute. Élective présence clignote à jamais. Ça n'est pas un poème minute, mais un poème seconde, parce que vous aviez prévu de recevoir aussi des patients sans rendez-vous pour les urgences, comme vous dites. Qu'est-ce que vous faites, vous, je me suis demandé, Arthur Théboul, quand vous êtes dans le doute?
Ah, je suis tout le temps dans le doute, hein. J'essaye d'avancer. Je vais continuer de marcher, quoi. C'est rare les moments de certitude, quand même. Mais c'est pas grave, c'est grisant aussi d'avancer comme ça.
Et vous ne consultez pas pendant ces moments-là votre téléphone portable?
Si, beaucoup trop. Ce sont d'abord des notes pour moi-même. Hein. Je donne de leçons à personne. Franchement, je suis aussi emprisonné que tout un chacun dans ses vibrations, ses sollicitations. Enfin, c'est très difficile aujourd'hui, je crois, pour tout le monde, non, d'échapper à ça. C'est un problème mondial, sociétal, énorme, non, c'est une évidence, quoi.
Votre téléphone, c'est parfois aussi votre prison, Simon Johanna?
Oui, dans le sens où, à une autre époque, pour d'autres personnes, c'était peut-être la télé. Mais en tout cas, c'est l'endroit où je gaspille du temps. Mais ça me fait pas que du mal, par contre. Il y a un côté où, je pense, dans les pratiques artistiques, on travaille tout le temps. Les temps de repos, les temps de contemplation sont aussi des temps de travail. Et donc, il faut... C'est quoi le hobby, à un moment donné, même si on prend du plaisir à beaucoup de choses que l'on fait? Et je pense que la consommation d'images sans aucun intérêt, sans aucune valeur, et fait partie d'une sorte d'hygiène. Faut pas abuser non plus.
Mais regarder des vidéos de petits chats plutôt que de regarder un ciel étoilé?
Disons que le ciel étoilé, je pense, les petits chats, je pense à rien. Et quoique, des fois, il y a des choses qui se faufilent aussi. C'est ça qui est assez fou.
Dernière question, Arthur Théboul. Est-ce que rendre la poésie accessible au plus grand nombre, c'est l'un de vos enjeux?
Beaucoup de gens ont peur de la poésie, comme c'était un... réservé soit à une élite, soit vraiment un snobisme suprême et tout. Voilà, bah, je suis juste... j'accepte l'idée de porter cette parole un peu simple, de dire qu'elle est à la portée de tous, pas forcément pour l'écrire, mais pour l'entendre, mais qu'elle nous traverse tous, tout le temps, qu'il faut l'accepter, voilà. Moi, mon grand-père était facteur, et c'était un amoureux des mots, donc... Et c'est de lui en partie que je tire ces enseignements-là, donc j'ai l'impression d'être un peu redevable, en fait, de ces enseignements. Le fait d'avoir eu de la chance de rencontrer des gens qui m'ont montré de manière très simple que la poésie était une chose humaine, un compagnonnage naturel, d'une vitalité folle et d'une grande simplicité. Alors j'essaye de porter leur message aussi, quoi.
L'adresse et la trace de l'expérience poétique collective que vous avez vécue l'an dernier, c'est votre nouveau livre, Arthur Théboul. Vous restez avec nous.
La première.
Dans quel monde on vit? Pascal Claude.
Et j'espère que vous passez un merveilleux moment à nos côtés. Cette semaine, nous sommes avec deux jeunes artistes, deux poètes, Arthur Théboul et Simon Johanna. La jeunesse face au monde et à son intimité. Ça sera dans quelques minutes avec vous, Simon Johanna. Mais là, c'est Blandine Rinkel que nous écoutons pour notre rendez-vous en toutes lettres. C'est à vous, chère Blandine.
Chère rumeur, tu es une créature pâle qui passe d'un corps à l'autre, se faufile dans les oreilles, les bouches et les boucles de mails, les nombrils et les plis virtuels. Pareil à certains insectes, tu prolifères dans le noir et dans l'humide, déstabilisant notre écosystème virtuel, brouillant nos radars, flattant nos fantasmes. L'infestation commence comme un jeu. Et sans même y penser, avec une légèreté presque innocente, on se fait ton écho. Les psychologues Alport et Postman, en 1947, ont identifié trois processus qui aident ensuite la créature que tu es à se propager. Le processus de réduction, c'est-à-dire la simplification du message initial, le processus d'accentuation, quand on ajoute sans même s'en rendre compte des petits détails inventés pour rendre un récit un peu plus frappant, le processus d'assimilation, le fait qu'on retienne certaines informations incertaines parce qu'au fond, elles arrangent bien notre vision du monde. De toi, chère rumeur, j'ai parfois été l'objet, comme il m'est arrivé de me mettre à ton service. Pas plus qu'un autre, je ne suis immaculée. Il m'est arrivé de dauber sur des gens, de diffuser des potins légers, d'éprouver des animosités sans fondement. Ni monstre, ni sainte, qui aujourd'hui pour l'être. Mais je lutte contre mes propres tendances, c'est même pour ça que je t'écris. J'aimerais ne pas laisser le gremlin l'emporter. Car chacun peut devenir l'homme qui a vu l'ours, et sans penser à mal, participer de la déformation de la réalité, avec, souvent, les conséquences politiques que l'on sait. Mais il faut ici descendre encore un peu. La rumeur, de quoi parle-t-on exactement? D'une toilette publique, que tout le monde utilise, mais dont chacun croit être le seul à connaître l'emplacement. Ça, c'est Mbou Garsar qui l'écrit. Mmh. Et avec lui, je crois qu'il n'y a pas de secret véritable au cœur de la rumeur, mais seulement des personnes qui aimeraient en détenir un. Détenir un secret ou une vérité rare dont ils auraient le privilège. Nous aimons les rumeurs parce qu'elles nous donnent l'illusion de posséder une monnaie d'échange social, un savoir privilégié. Nous savons vaguement quelque chose que personne ne sait vraiment. Des données floues, des idées, des scènes évanescentes transitant d'un discours à l'autre sans avoir été éprouvées ni même pensées à leur terme, sans avoir été vérifiées. Des nouvelles de sources obscures qui se déforment à mesure qu'elles se répandent. Bref, des bruits qui courent. Pas de la musique, des bruits. Et soudain, ça me paraît limpide. Tu es, chère rumeur, très exactement l'inverse de ce qui me rend à la vie. Ce que je traque dans la musique, dans la littérature, à la radio même. C'est l'opportunité de me hisser un peu au-dessus de mes propres pentes médiocres, de résister à l'appel du ressentiment et de la mesquinerie. L'opportunité d'échapper à ce bruit qui amoindrit souvent nos vies. L'éventualité, au fond, de trouver dans ce monde un peu de précision et qui sait, un peu de beauté. Rumeur vague et commune, je veux croire à ton envers. Te préférer une parole précise, secrète et musicale. Saurons-nous l'entendre ? Blandine.
Merci à vous, Blandine Rinkel, pour ce texte. Arthur Théboul, Simon Joannin, en quelques mots, vous entretenez quel lien, vous, avec la rumeur, avec les rumeurs ? Simon, d'abord.
Je me reconnais tout à fait dans ce qu'a écrit Blandine, dans le sens où je pense en avoir fait l'objet comme j'ai pu en colporter. Maintenant, j'espère être arrivé à un stade où mon incapacité de me mentir à moi-même ou ma vigilance là-dessus fait que j'arrive à faire attention à ce que je véhicule au-delà de moi comme information. En tout cas, de ne pas juger, de jamais juger personne. Ouais, j'essaie de faire très, 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 très attention avec ça.
Arthur Théboul.
Ce que dit Simon me fait penser au fait qu'aujourd'hui, beaucoup sur les réseaux sociaux, tu parlais de virtualité, Blandine, il y a un biais supplémentaire, c'est que non seulement on doit résister à notre propre mesquinerie, à notre propre sentiment et à notre propre appel à la rumeur, mais que les algorithmes eux-mêmes cultivent ça de manière vraiment éhontée. Et même si individuellement on fait tous les efforts du monde pour essayer, et c'est essentiel, de la contenir, il y a quelque chose de politique, de géopolitique qui nous dépasse. On le voit aujourd'hui avec tous les trolls, les faux comptes russes. Les démocraties sont vraiment en danger à cause de ça. C'est pas du tout un truc anodin, léger, quoi.
Votre lettre, Blandine, elle est à lire, à écouter et à partager via notre site lapremière.be. Et nous poursuivons avec ceci.
Il y a du monde. Des copains tous partisans de la fête. Juste des gens qui volent quelques heures sous des lumières moins blanches que celles que nous sert le jour. On s'en fout un peu tant qu'il y a à boire, que la musique est bonne et que le soleil reste caché.
Jeunesse exulte, se bat contre sa crainte d'avaler malgré soi l'héritage de pères ayant pourri la jungle et les sols, secoue la tête pour en extraire les épines d'un quotidien fait de soleil et de joie, de mal-être et de nouvelles catastrophiques. Petite foule danse parce que tout coûte cher, parce que la guerre frappe à la porte, pour nettoyer la crasse dont les adultes ont sali leur enfance, pour cet ami perdu dans la tôle froissée d'une voiture et qui ne dansera plus. Cet extrait d'ici. Si commence un amour, c'est votre nouveau roman, Simon Joannin. Et c'est vous que nous entendions il y a quelques instants dans une sorte de bande originale qui a accompagné votre précédent roman. Pourquoi est-ce que le monde de la nuit prend tant de place dans vos textes ?
Très sincèrement, je pense parce que j'ai vécu en Belgique entre mes 20 et mes 23 ans. Et que la culture,
la
culture de la musique électronique...
À cause de la Belgique. Ou grâce.
Grâce, oui.
Et pourquoi grâce alors ?
Parce que c'était une période très violente de ma vie, et très douce en même temps. Et les communautés autour des musiques électroniques m'ont fait autant de bien qu'elles m'ont mis en danger. En tout cas, elles m'ont permis d'exulter en même temps de me positionner, d'affirmer,
de consommer d'être en vie. Trop d'alcool, de consommer trop de drogue.
J'ai essayé une fois.
Une seule fois.
Ouais. Vous pensez que je vous dis la vérité à la radio ? Vous êtes fou, Pascal. Non, au-delà de ça, dans l'écriture, ça me permet...
Parce que la question de l'addiction, c'est pour ça que je me permets de poser la question, elle est très présente dans vos textes et notamment dans le nouveau.
Oui, 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 tout à fait. Des toxicos d'une manière générale et l'addiction à l'autre aussi, enfin, en tout cas des phénomènes de dépendance au sens très large, que ce soit sur des produits stupéfiants ou d'autres qui est pas quelque chose avec lequel je me débat intimement. Je fais pas partie des personnes qui chimiquement sont constituées pour être dépendantes et qui vivent avec cette maladie. En revanche, il y a toujours eu un jeu de va-et-vient et de tester les limites, notamment pendant l'adolescence. Il y a eu vraiment cette volonté de...
Une seule fois, alors.
De pousser les curseurs. Non, ça a été un quotidien. Hein. Ça a été vraiment jusqu'à ce que certains événements traumatiques me fassent changer de voix. Mais pour en revenir à ce qui nous concerne à la littérature, c'est vraiment des espaces de langage qui me sont chers. Et ça, depuis le début, depuis toujours, j'avais 20 ans, j'écrivais des poèmes en rentrant de soirée, en rentrant d'after. À la fois, je pense, pour me déculpabiliser de mes intoxications, mais aussi pour, et ça a été déterminant, trouver du beau dans des espaces qui ne l'appelaient pas forcément. Voilà, de chercher des formes de jaillissement de lumière.
C'est beau ce qui se joue dans ces lieux nocturnes ?
Ah bah, putain, je pense que ce qui se joue dans les contre-cultures au sens général est absolument essentiel au bon fonctionnement d'une société malade telle que la nôtre aujourd'hui. Oui, parce que c'est
dans une société malade.
De plein de choses. Ouais, de plein de choses. Bah, c'est assez. Là, on l'entendait dans les extraits d'actualité que vous passez. Pour prendre le plus proche de nous, ce qui est des questions d'agriculture, c'est quand même assez hallucinant ce qui se passe entre les pouvoirs décisionnaires et les personnes qui nous nourrissent. Alors, moi, je viens d'un milieu paysan. Je peux devenir
fils d'apiculteur.
Apiculteur, ouais. Et j'ai vu, voilà, de manière très concrète, hein, le cheptel d'abeilles de mon père a divisé par deux en un an pour cause de perturbateurs, quoi, qui font que les abeilles ne trouvaient plus les plantes et mouraient. Enfin, c'est très concret dans la vie de centaines de milliers de personnes, ces questions-là. Et voilà, ça se décide dans des bureaux à côté de là où on est, et c'est assez désastreux.
Théo, c'est un jeune écrivain, il vit entre Marseille et Paris et il connaît une forme de précarité, c'est l'art de la débrouille, il ne sait pas toujours où il pourra dormir. Il est par exemple attentif au prix des fruits bio, mais moins apparemment à celui de la vodka ou de la coke. La précarité qui fait partie encore aujourd'hui de votre réalité, Simon Johanna ?
Aujourd'hui, je jouis d'un statut au capital symbolique énorme, avec tous les privilèges qui en découlent. Maintenant, la vie d'artiste, c'est aussi un choix de vie précaire parce qu'on n'a pas d'assurance de revenus ou d'assurance d'une continuité de succès. Aujourd'hui, je m'en sors, hein, y a pas de problème, mais voilà, c'est difficile d'établir des plans sur l'avenir comme on pourrait le faire dans un cadre plus traditionnel de salariat. Donc, je me considère plus comme étant précaire, mais ça reste un mode de vie particulier. Ouais.
Oui. Et vous continuez à la regarder, à l'observer, la précarité.
C'est encore une fois le
ça saute au visage.
Oui, parce que c'est des codes que je connais et parce qu'il y a une fragilité qui me touche et un besoin de rendre une parole qui m'a été donnée à un moment donné. Moi, j'ai grandi quand même avec des personnes qui étaient très marginales, qui m'ont beaucoup donné d'amour, qui m'ont forgé dans mon enfance et ma petite enfance, et donc j'ai toujours c'est des voix que j'entends quand je les croise. Voilà, il y a d'autres voix que peut-être j'entends pas, mais celles-là, je les entends et je fais mon possible pour
les voix des marges.
Ouais, les voix des marges, les voix des... En tout cas, des personnes qui sont de biais par rapport à la société, peu importe leur position, le barreau sur lequel elles se situent, quoi.
Oui, parce que dans ce nouveau livre, vous nous faites voir la misère, la violence, la brutalité et la détresse de l'époque. Théo est frappé par le nombre de clochards à Paris, par exemple. Il est de temps en temps Angélique, une vieille femme de 96 ans qui n'est plus autonome, mais qui ne veut pas bouger de chez elle et qui dit « À quoi ça me sert, Théo, d'être encore ici? Je ne sers plus à rien et j'embête les autres. » Vous évoquez aussi le cas de cette adolescente tuée par une balle d'un policier. Toutes ces situations, elles vous heurtent ?
Alors, je suis pas dans une forme de revendication ou de.
Mais pourquoi les faire exister dans votre texte alors ?
Parce qu'elles existent dans ma vie, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que j'écris à partir de l'expérience que je fais du réel. Et la part fictive de mes textes, elle est dans la langue. C'est la distance que je mets entre moi et les événements qui me traversent ou que j'entends par le processus d'écriture qui fait que ça devient un roman.
Mais Angélique, par exemple, vous l'avez croisée dans votre vie ? Vous l'avez aidée ?
Oui, très concrètement. Voilà, c'était une dame qui habitait avec un autre prénom, une autre vie, on change les choses. Mais oui, j'ai accompagné quelqu'un comme ça sur la fin de sa vie parce que je l'entendais tomber. Il y a des questions qu'on entend, de sociétal, puis à un moment donné, on est ramené par des choses très simples et très puissantes en même temps. Et qu'est-ce que c'est d'entendre sa voisine qui vit toute seule et qui est très vieille et qui tombe? Et si je suis pas là, qu'est-ce qui se passe? Si je pars un week-end, est-ce qu'elle va crever sur le sol de son appartement? Et c'est moi qui vais m'en rencontrer après. Enfin voilà, d'un coup, ça devient très... Voilà, il n'y a pas volonté de me dire, ok, je vais prendre en charge ces questions-là et puis dénoncer la situation des personnes âgées qui sont seules. Enfin, tout le monde est au courant de ça, ça sera enfoncer des portes ouvertes. Mais à un moment donné, il y a des choses qui fracassent mon réel. et ça me touche et j'en parle.
Je ne crois en aucun des récits de ce monde voulant me faire accumuler ce que je n'emporterai nulle part, aimer des valeurs aussi rances qu'un salaire ou une nation, admirer des faibles qui n'ont pour toute compagne que leur angoisse du vide. Existe-t-il seulement autre chose ? Y a-t-il quelque part une forme à inventer, une lumière d'espérance sans que cela ne sonne comme un relent d'église ? C'est ce que vous écrivez et c'est Théo qui se pose ces questions. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre ?
En fait, la réponse que je pourrais lui donner, c'est il ne faut pas chercher, il faut inventer. Il ne faut pas chercher dans ce qui existe déjà. Il est temps d'inventer des nouvelles formes de pensée, d'écriture, de spiritualité, de rapport à l'autre. Je pense qu'il faut se nourrir de ce qui a été fait, mais on est dans une crise d'archétypes et de modèles. Et il y a urgence à proposer
des... Vous écrivez des livres pour participer à la réalisation, à la création de nouveaux récits pour le monde de demain ?
Je pense que c'est la fonction de l'écrivain, entre autres choses. Mais oui, il y a vraiment cette volonté, et dans ce livre particulièrement pour ce qui touche au masculin et aux masculinités au sens général, de confronter les questions et de tenter d'en proposer en tout cas des pistes ou des bribes ou des indices vers des possibles sorties par l'eau qui passent par, à un moment donné, un collectif. Moi, je suis tout seul avec mon livre, j'ai pas du tout la prétention de résoudre des choses aussi complexes. Mais il y a cette envie, ce besoin d'abord intime, de me proposer des modèles honnêtes.
Ouais. Si je vous dis que Théo, il est le reflet d'une génération désenchantée, vous répondez quoi, Simon Johanna ?
Je dirais que ça ferait le troisième livre où on me dit ça. Désenchanté, je pense pas. Non, je pense qu'il est plein d'enchantement. Au contraire, il est vraiment dans une quête spirituelle. Il cherche l'enchantement. Il est pas désenchanté. C'est juste qu'on lui propose pas d'enchantement et que c'est à lui de l'inventer. Je tique toujours un peu avec un principe un peu nihiliste ou pessimiste comme ça qu'on poserait... Voilà, sur une génération, c'est beaucoup de gens. Et puis le concept...
Oui, Théo, d'ailleurs, il se méfie du mot génération.
Bien sûr, ouais, c'est un argument marketing pour lui. C'est, ça fait partie d'un vocabulaire assez récent qui sert à cibler des clients. C'est comme ça qu'il perçoit ce mot et qu'il se l'explique, quoi.
Pourquoi les hommes sont-ils obsédés par le sexe ? Comme si baiser une chatte était le seul écrin possible d'une intimité essentielle ou déposer quelque chose de soi, comme si les couilles faisaient fonction de cœur, contenant les tristesses, les joies, les craintes et les envies, les doutes et les blessures, et qu'il fallait à tout prix décharger, se faire jouir encore et encore dans le cul des autres, comme pour laisser couler ce que l'on ne sait pas dire autrement, puisque rien ne doit jamais sortir par la bouche et les larmes, que toucher au reflet saccagé de son âme, c'est se perdre. C'est ce que vous écrivez, Simon Johanin. Théo, il interroge ses propres comportements tout au long de ce roman. La question de la domination, la violence masculine, le désir qui nie le consentement, les zones grises. Ce sont des questions qui vous poursuivent, Simon Johanin ?
Qui me poursuivent, je ne suis pas hanté, mais c'est des questions que je me pose, oui. Je pense que tout homme... à peu près sensé et qui a la volonté de pouvoir se regarder dans le miroir doit se poser ces questions, c'est absolument essentiel, c'est notre rôle. C'est difficile de plus avoir conscience des choses aujourd'hui, hein, quand on voit ce qui se passe et notamment le prise de parole, pour m'a parlé de manière très concrète par exemple, je sais pas, pour la question des violences sexuelles, à un moment donné, d'histoire singulière en histoire singulière, on voit, il y a un système qui se dessine et comment nier qu'on est héritier et qu'on fait partie de ce système. Et à partir du moment où on sait ça, c'est là où ça, on peut avoir une position active et peut-être intéressante.
Position active en participant à ce mouvement de libération de la parole, en le soutenant.
L'action, c'est surtout d'écouter. L'action de Théo au travers du livre, c'est beaucoup comprendre que la participation à ce mouvement passe par savoir fermer sa gueule à un moment donné. Écouter, c'est déjà participer à la conversation.
Dans quelques jours, c'est la Foire du Livre à Bruxelles. Nous y serons d'ailleurs en direct et en public samedi prochain. Et vous, Simon Johanna ?
Non, je ne serai pas là, je serai à Bordeaux.
Vous vous dites dommage ?
Bah oui, j'aime beaucoup Bruxelles, donc c'est toujours un plaisir d'être là.
Et vous aimez beaucoup les salons consacrés aux livres. Hein,
c'est une grande passion.
Votre personnage dit ceci, « La faune des écrivains en salon est de mémoire le plus gros ramassis de beaufs qu'il ne m'a jamais été donné de fréquenter. » Il a raison, Théo.
Alors, pour mon humble expérience, je dois avouer que quand je suis arrivé en littérature, j'ai été extrêmement choqué par le gap, la distance entre le capital symbolique dont jouissent les auteurs réellement au quotidien et ce que ça permet, le privilège induit parce que ce statut, et la réalité intellectuelle des gens croisés. Alors il y a plein de gens formidables, très intelligents, tout ça. Hein,
grande déception en fait.
Oui, mais qui tient au système, encore une fois, qui tient pas aux personnes, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui va valoriser la réelle compétence et le talent. Mais encore une fois, il y a beaucoup de compromissions et il y a beaucoup de renvois d'ascenseur, enfin de petites choses comme ça qui font que à terme, on peut se retrouver dans des situations assez ubuesques. Et puis parce que littéralement, c'était intéressant à traiter. Je pense que aussi ça vient de mon caractère, hein, de ma sensibilité, où je suis quelqu'un d'assez sauvage et qui peut avoir comme mécanisme de défense une certaine forme de cynisme ou d'attaque. Et donc ça, c'est une partie que vous avez citée, qui est un roman dans le roman, et qui est aussi un espace pour Théo, donc qui est un personnage jumeau, de décharge d'une certaine forme de violence. C'est-à-dire qu'il n'est pas...
Ce que vous avez fait, vous aussi, Simon, Johanna, en écrivant ce texte, de toute façon, c'est que souvent l'écrivain n'est plus très jeune et le regrette fortement. Il n'est souvent pas bien connu non plus et le regrette tout aussi fortement. Est-ce que vous reconnaissez, Simon, Johanna, cet artiste ?
C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur...
Ne me dites pas non.
Alors oui, je reconnais la chanson, mais je...
Mais c'est Kali.
Oui, voilà.
Kali avec C'est quand le bonheur, dont vous parlez dans votre roman. Vous l'avez déjà croisé lors d'un salon littéraire ?
Oui, je pense qu'il a sauvé un salon, pour moi. Enfin,
Kali, qui lui est toujours très sympa avec les petites vieilles.
Ouais. Oui, je pense que je me souviens d'un salon particulièrement à Limoges où j'étais en incapacité de vivre ce qu'on me proposait et il était à une table pas très loin de la mienne et j'ai été bluffé et adouci par sa capacité d'amour. C'est-à-dire que d'un coup, ça m'a fait redescendre.
Vis-à-vis des gens ?
Pas vis-à-vis des gens, c'est plus une histoire de climat, d'ambiance générale, de foule, de comme ça, de sollicitations publiques continues pour ma part, peut être vécue de manière assez intrusive. Encore une fois, le moment où je dis ça dans le livre, c'est un espace particulier de décharge et qui est lui-même questionné plus tard dans le livre. Donc, c'est pas ma vérité. Là, j'ai fait deux librairies à Paris, en banlieue, cette semaine. J'ai des échanges qui sont absolument touchants. Et
vous avez pris du plaisir.
Sincère. À chaque fois, je prends du plaisir, sinon je le ferais pas. Les salons, j'en fais pas parce que j'y prends pas de plaisir, par exemple. Alors c'est très rare, il y en a certains que je connais, que j'apprécie. Mais oui, les rencontres en librairie ou la radio telle que je la vis avec vous, c'est pas du tout quelque chose que je subis. C'est un exercice qui m'intéresse et qui me plaît, ouais.
Tant mieux. Ce livre, Simon Johanna, c'est un livre sur l'amour, sur un écrivain qui a un cœur complètement brisé, qui vit sans cesse avec la présence de l'absence. Dernière question, qu'est-ce qui commence quand un amour finit ?
Un autre amour, je sais pas, non. En tout cas, ce que je sais, c'est que à partir du moment où la personne avec qui l'on vivait une histoire, pour parler d'un modèle assez traditionnel, qui est celui que j'ai expérimenté le plus dans ma vie, n'est plus là pour vous renvoyer le miroir ou les parts de vous dont vous avez besoin et que vous n'êtes pas en capacité de vous fournir, alors il y a quelque chose d'intéressant qui commence. Parce que déjà c'est un rappel de la condition solitaire de l'humain qui est un fait. Et donc il faut trouver en soi des ressources de lumière et ça c'est quand même vachement bien pour se permettre ensuite d'être dans un rapport qui est peut-être plus individualisé à l'autre et plus sain.
Ici commence un amour, c'est un texte direct traversé par un rythme hypnotique voire psychédélique et abrité sous une constellation d'éclats poétiques. C'est signé Simon Johanna. Vous restez avec nous.
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
J'espère que vous appréciez ce moment passé à nos côtés. Nos invités vous offrent à présent des sons qui les font frissonner. Le son frisson d'Arthur Teboul, c'est celui-ci. C'est la voix de Terry Callier sur la chanson Cotton Eyed Joe que vous vouliez écouter, Arthur Teboul.
Oui, à chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression que quelque chose s'arrête, un espace secret, une tranquillité vient. C'est quand même une voix tombée du ciel.
Et vous, Simon Jeannin, vous frissonnez à l'écoute de ça?
J'ai appris hier. Il faut croire que je me retarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit. L'un de ces sales ragots, comme ils sont colportes entre évier et latrine.
On en revient à la question de la rumeur. C'est un extrait de Pour en finir avec le jugement de Dieu, une création radiophonique du poète Antonin Artaud, enregistrée en novembre 1947. Et je vous laisse brièvement réagir, Simon Jeannin.
Je pense que, pour rebondir sur ce qu'a dit Arthur, c'est une voix tombée du ciel aussi, mais peut-être d'un autre ciel. Et moi, c'est vraiment la tessiture de sa voix qui m'attrape la colonne et qui me fait flipper, pour le dire assez concrètement. Sa voix raconte quelque chose de lui et de son écriture que je trouve assez... qui est entre la fascination et l'épouvante, quoi. De la douleur de cette personne.
Et avant de se quitter, nos choix culturels pour ce week-end, Blandine Rinkel d'abord, que nous proposez-vous?
J'ai relu il y a quelques jours un livre qui s'appelle « Le crime en toute humanité » de Thierry Lévy, un avocat mort en 2017, je crois. Le livre date de 1984. C'est un livre qui parle de notre responsabilité collective dans le crime, du fait que la figure du criminel est aussi une responsabilité qu'on a sociétalement. Et c'est un livre assez radical, avec une position anticarcérale que je trouve en fait assez revigorante. Ça oblige à penser, je pense.
Simon Jeannin.
Alors moi, je vous invite à vous rendre le mois de votre choix au Cabaret de Poussière à Paris, boulevard de Belleville. Si vous avez envie de poésie et de radicalité poétique, et d'être en contact avec des artistes qui sont tous plus tarés les uns que les autres, rendez-vous au Cabaret de Poussière. Je vous en dis pas plus, mais ne ratez pas ça.
Arthur Théboul.
Je crois que c'est Blandine qui m'a fait découvrir ce roman de Douglas Stewart qui s'appelle Chuggy Bane.
Trop bien.
Que j'ai lu récemment, ça m'a inspiré. Ça se passe à Glasgow, dans la classe ouvrière sous Thatcher, donc autant dire un moment difficile. Et c'est l'histoire, à travers les yeux de Chuggy Bane, de toute une famille, de toute une classe sociale qui racontait avec beaucoup de férocité et de tendresse. Et et beaucoup d'amour, de générosité aussi. On aime tous les personnages, quelle que soit leur faiblesse.
Et de mon côté, je vous recommande d'aller voir La salle des profs du réalisateur allemand Ilker Satak, un film sur le soupçon, la quête de vérité, l'enfer que peut engendrer la tolérance zéro et la méfiance injectée dès l'enfance. Ce film prend l'école comme miroir de nos sociétés. Et c'est à ne pas manquer à lire aussi les livres de nos invités. L'adresse d'Arthur Théboul, c'est aux éditions Segers. Et Ici commence un amour de Simon Jeannin. C'est chez Alia. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci.
Et merci Blandine.
Merci beaucoup.
Dans quel monde on vit?
Sur la première.
J'espère que vous avez aimé ce numéro de Dans quel monde on vit. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à nous offrir quelques bonnes étoiles. C'est précieux, ça permettra encore plus d'oreilles de nous écouter. Un grand merci et à très vite.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.